بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. شفاعه الإسلام toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de consacrer quelques minutes pour essayer de comprendre un verset du Coran. Et c'est là un objectif noble de lire le Coran, de l'écouter, d'essayer de comprendre, d'essayer d'intégrer les enseignements qu'il y a dans chaque verset, avec pour objectif de renforcer sa foi, de renforcer ses liens avec Allah Azza wa Jal en mettant les enseignements de ce verset en pratique, en application dans notre vie. Il y a des fois où ces versets, ça peut être un ordre, hein, une façon d'accomplir une action. Il y a des fois où les versets concernent une interdiction, donc on s'éloigne de ce qui a été rendu illicite. Il y a des fois où les versets peuvent citer la création d'Allah Azza wa Jal. Ça nous permet de réfléchir, de méditer sur la grandeur d'Allah par le biais de sa création. Donc ça augmente la foi. Et le verset qu'on a lu aujourd'hui, c'est parmi les derniers versets, le verset 102 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah Azza wa Jal révèle: ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour compléter. On va se suffire de cette portion de verset. Dans ce verset-là, on est à la fin de la sourate Yusuf. Après tous les événements, après tous les péripéties, après le dénouement, après la nusra, l'ouverture qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Et là, Allah Azza wa Jal rappelle au prophète alayhi salatu wa salam que lui n'était pas présent à l'époque où ces événements ont eu lieu. Et la sourate Yusuf raconte l'histoire, il y a la narration de l'histoire de Yusuf alayhi salam est d'une précision extrême dans l'ordre chronologique, événement après événement. C'est-à-dire que c'est raconté d'une façon que c'est comme si une personne qui a vu ou qui a vécu l'histoire est en train de raconter. Et qui c'est qui prononce ces paroles? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à quelle époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu par rapport à Yusuf alayhi wa sallam? Combien de siècles séparent Yusuf alayhi wa sallam du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais étudié un livre ou la religion ou quoi que ce soit avec quelqu'un, Allah Azza wa Jalla rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout ce que tu es en train de réciter auprès de ton peuple et qu'ils sont en train d'apprendre, de mémoriser, ce sont là les versets, la révélation d'Allah Azza wa Jalla, et tu n'étais pas présent lorsque ces événements ont lieu, et tout ce qu'on te révèle, cela vient d'Allah Azza wa Jalla. Ces versets, cette histoire de Yusuf alayhi salam, ça fait partie des miracles du Coran, car le prophète sallam, des siècles après, il raconte en détail une histoire qu'il n'a pas vécue, une époque qu'il n'a pas connue. Et donc, ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, Yaqulu ta'ala, li'abdihi wa rasuli Muhammad. Ce verset est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah Rabbul Izzah lui a révélé l'histoire de Yusuf alayhi salam, wa kayfa rafa'ahu Allah alayhim wa ja'ala lahu al'aqiba, comment est-ce qu'il a été prouvé, et ensuite comment Allah Azza wa Jal lui a envoyé son aide, et comment en finalité al'aqibatu lil muttaqin, le dénouement est toujours pour les pieux, et ainsi de suite, et jusqu'à tous les détails de l'histoire. À la fin, Allah Azza wa Jal dit hadha wa amthaluhu ya Muhammad ibn Kathir, pardon, il dit ce que on vient de te révéler, l'histoire de Yusuf alayhi salam, ainsi que les autres histoires similaires à Yusuf alayhi salam, c'est-à-dire les histoires des autres prophètes. Wa amthaluhu ya Muhammad hadha min akhbaril ghuyub as-sabiqa. Ça fait partie, on va dire, d'une connaissance de l'invisible qui n'est pas accessible aux personnes à son époque. À un tel point que même les érudits parmi les Arabes ou les gens du livre à l'époque du prophète sallam, ils ne connaissaient pas l'histoire de Yusuf alayhi salam avec autant de détails. Et les détails qu'il y a dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, on va dire que l'histoire du Coran, c'est la version la plus complète même chez les Nassara, même dans la Bible, on parle de Joseph, mais il n'y a pas une narration aussi fidèle, aussi précise que celle de la sourate Yusuf. Et donc, le prophète sallam n'avait personne aux alentours à Mecca ou peu importe l'endroit qui pouvait savoir cette histoire. Et ça, c'est une preuve que ce Coran vient d'Allah Azza wa Jal. Il y a plusieurs d'autres versets qu'on appelle versets miraculeux. Quand le prophète sallam parle des... Là, on parle du passé. Mais quand le prophète sallam parle du futur, des événements de la fin des temps, aucun être humain ne peut savoir ce qui va se produire, le retour de Isa alayhi salam, et ainsi de suite. Ya'juj et Ma'juj sont des événements que le prophète ne peut pas savoir. Le fait qu'il le raconte aux sahaba, c'est bien une preuve de la véracité du Coran, ça vient d'Allah Azza wa Jal. De même, les versets miraculeux en rapport avec la création de sept cieux, sept terres, l'histoire de Nahl, qu'on va lire demain, soit Nahl, les abeilles, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des versets, et la création du fœtus de le ventre de la maman, c'est vraiment des versets exceptionnels. Tout ça, ça prouve la véracité du Coran. S'il y a des personnes parfois qui essaient de mettre des doutes dans votre cœur, en vous disant que non, ce Coran, c'est un livre comme un autre. Ce n'est pas un livre comme un autre. Ce n'est pas un livre comme un autre. Qui, à l'époque, subhanallah, on remonte à 14 ou 15 siècles, en plein désert, aurait pu expliquer aux gens les différentes étapes du développement du fœtus dans le ventre de la maman jusqu'à maturité, et avant maturité, on parle des os, on parle de la chair, on parle de tout ça. À cette époque où cette science n'était connue de personne, pas avec ces détails, à une époque où un microscope n'existait pas, et le professeur Sam est capable d'expliquer et de donner les détails, cela est une preuve parmi les preuves de la véracité de ce livre. Et puis il y a d'autres versets encore, l'histoire des mers salées et des mers d'eau douce, hein, ces deux mers ne se mélangent pas. Et puis ça a été illustré, hein, sur les réseaux sociaux on a vu, il y a des photos qui montrent bien l'eau salée et l'eau douce qui ne se mélangent pas. Est-ce que le prophète avait l'occasion d'aller voir la mer? Où est Mecca? À combien de distance de la côte? Quelle est la côte la plus proche de Mecca al-Mukarrama? C'est la côte qui est proche de Jeddah. Et c'est à quelle distance? C'est à plus de 400 km, environ 400 km. Et quand elle était à Madina, pareil, la côte la plus proche était à Yambour, qui était à, si je ne me trompe pas, 200-300 km. Le prophète n'allait pas dans ces endroits. Et il est capable de raconter aux sahaba la mer, comment est-ce que c'est constitué, l'eau douce, le salé, des choses que le prophète lui-même n'a pas vues. Tout ça, ce sont des preuves de la véracité du Coran, c'est Kalamullah. Et donc l'histoire de Yusuf alayhi salam, des fois on l'écoute, on trouve l'histoire, elle est belle, elle est magnifique, c'est la meilleure des histoires, mais qu'on doit réaliser que ça, encore, c'est une preuve que ce Coran vient d'Allah, parce qu'il y a des détails qu'aucun être humain ne connaissait à cette époque. Hada. Nuhihi ilayk ay nu'allimuka bihi lima fihi min al-'ibra. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla révèle au prophète salam l'histoire d'un prophète passé? Pourquoi est-ce qu'Allah ne garde pas uniquement ce qui concerne cette communauté et son avenir, et il pourrait même dire son devenir? C'est que, comme on l'avait dit hier ou avant-hier, à travers l'histoire des peuples précédents, il y a un ibra, mais ibra pas pour nous, avant tout ibratun laka, wal itti'adhu liman khalafak. Il y a tout d'abord une leçon pour toi, que tu vois, que tu prennes conscience que tous les prophètes ont connu des difficulté de la propagation de leur mission. Il n'y a pas eu un prophète qui est venu sur terre et qui a prêché la vérité et que tout le monde a dit « Sami'na wa ta'ana, tu es le prophète d'Allah, on te suit, donne-nous des ordres, on exécute. » Abadan, ça ne s'est jamais produit comme ça. Ça s'appelle la sunnat d'Allah, Azza wa Jal. Sunnat d'Allah. Alif lam mim, ahasiba an-nas an yutraku, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun fitna. Fitna sont les épreuves. Quand quelqu'un fait un retour vers Allah, une personne se reconvertit à l'islam, ou une personne est éloignée il est musulman, il est éloigné de la religion, il est dans les ahwal, et il veut revenir, il veut recommencer à pratiquer, que ces personnes réalisent, qu'ils soient conscients, que le retour vers Allah ne se fait pas avec facilité. Il y a des tests, il y a des épreuves à travers lesquelles Allah Rabbul Izzah va voir est-ce que, et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs, mais c'est la façon d'éprouver l'homme. Allah Azza wa Jalla va voir est-ce que tu es sincère dans ton retour vers lui, est-ce que tu tiens ferme à la vérité ou non. Et c'est là qu'il faut rester, il faut rester ferme, parce que les prophètes eux-mêmes, dans leur rapport avec la propagation de la vérité, ils ont connu énormément de difficultés. L'histoire de Yusuf alayhi salam en est une très belle illustration, avec la trahison de ses frères, avec également le moment qu'il a passé dans le puits, le moment qu'il a passé en prison. Il y a Il y a des mufassirin un peu les contemporains qui donnent une comparaison entre, comment on peut appeler ça, les niveaux, pas les lieux géographiques, mais vous voyez, il est dans un puits, d'accord? Ensuite, il est dans un cachot et personne ne sait où il est. Et le troisième lieu, il a tiré où ça? Sur un trône. Ça, c'est le dénouement. Alors que ce parcours est rempli d'embûches, de difficultés, on a l'impression qu'il ne verra jamais l'ouverture, il ne trouvera jamais la solution. En finalité, il devient ministre de l'agriculture, de l'économie, ainsi de suite, de le royaume d'Égypte. Pareil pour son père, comment il s'appelait son père? Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam, c'est une histoire, elle est magnifique, c'est l'histoire de l'histoire. Mais c'est vraiment une leçon de patience et de confiance en Allah. On pourrait dire que parmi les prophètes qui ont le plus travaillé leur confiance en Allah Azza wa Jal, il y avait le prophète Yaqub alayhi salam. À chaque fois, il disait à ses enfants, je n'ai aucun doute, je sais qu'Allah Azza wa Jal, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Un jour, Allah me le rendra. Il a perdu Yusuf alayhi salam, il n'a jamais perdu confiance en Allah, il savait qu'un jour Allah allait lui rendre son fils. Il n'y a rien de plus douloureux pour un père que de perdre son enfant et de ne pas savoir où il est. C'est pas comme si que l'enfant meurt, qu'Allah nous protège et que tu l'as enterré de tes propres mains là, l'enfant a disparu et c'était son fils préféré. Et pourquoi est-ce que l'épreuve est encore plus dure alors qu'il a d'autres enfants? C'est le seul qui doit recevoir la prophétie. Il sait que l'héritier de la Nubuwa, de la Risala, c'est Yusuf alayhi salam, et c'est lui qui disparaît. Donc Allah Rabbul Izzah l'éprouve dans ce qu'il aime le plus. Et à chaque fois, il disait, et ses fils, qui étaient coupables, on connaît l'histoire, il ne comprenait pas comment est-ce que son père, après tant d'années, il restait ferme sur sa position. Et à un moment donné, Yaqub dit, je sais qu'un jour je vais le retrouver, même si vous pensez que je radote. Que je suis en train de répéter la même chose, mais j'ai conviction. Et à la fin, lorsque l'histoire de la chemise mettée sur le visage de mon père le retrouvera à la vue, il dit, قَالَ أَلَمَ قُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Est-ce que je ne vous avais pas dit, je sais, إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ, je sais, la traduction à peu près de mon Seigneur, ce que vous ne savez pas. Et en commentaire, les savants disent, c'est une belle relation entre le fait de connaître Allah Azza wa Jal et la conviction qu'on va développer. La confiance qu'on aura en Allah Azza wa Jal. Inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Je sais à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Traduction approximative. Qui parmi les hommes connaissait le mieux Allah Azza wa Jal à cette époque? C'était bien sûr lui, le prophète Yaqub alayhi salam. Le fait qu'il connaissait Allah Azza wa Jal, ça lui permettait d'avoir une confiance inébranlable en Allah. Alors que celui qui ne connaît pas son Seigneur, il ne peut pas avoir une confiance totale. Et quand on ne connaît pas Allah, le Iyyaka na'bud n'est pas parfait. Et quand on ne connaît pas Allah, le Iyyaka nasta'in n'est pas parfait. Donc, pour parfaire le Iyyaka na'bud ou Iyyaka nasta'in, il faut revenir au verset avant. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il faut revenir vers les versets, on parle de sifat d'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Connaître le sens de Rabb Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik, maître du jour de l'attribution. Quand tu as connu, quand tu as étudié, tu essaies de comprendre. Et on ne comprendra pas tout, bien sûr. Parce que personne ne peut connaître vraiment la grandeur d'Allah. Mais on peut connaître ce qu'Allah nous a permis de savoir. Ce qui a été révélé, c'est pour qui ça? C'est pour nous. C'est pour que nous connaissions notre Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'effort de connaître qui est notre Seigneur? On se prosterne, on jeûne, on donne l'aumône, mais on ne connaît pas vraiment qui est notre Seigneur. Alors que si on connaissait la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ses actions auraient un autre sens. Ses actions auraient vraiment, prendraient vraiment une autre ampleur. Et donc, si tu développes, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Rahman, Rahim, Malik, Yawmiddin, toi, Iyaka Na'budu sera beaucoup plus fort. C'est-à-dire, c'est toi que nous adorons. La puissance de tes ibadah, ça se fera sentir. Et là, tu vas développer At-Tadallul wal Khudu', la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Et ton Iyaka Nasta'in sera puissant parce que tu connais qui est ton Seigneur. Et Yaqub alayhi salam, il connaissait son Seigneur, il connaissait les qualités d'Allah Azza wa Jal. Parmi les qualités qu'Allah lui avait révélées, c'est pour ça qu'il n'a jamais perdu confiance. Pas une fois, il n'a douté de la clémence, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Hada. Donc ça, c'était une latifa, c'était un petit, vraiment quelque chose de magnifique que nous faisons de mettre en avant concernant le fait de connaître Allah Azza wa Jal. Nous revenons vers notre verset de tout à l'heure, donc dans lequel Allah Rabbul Izzah rappelle au Prophète que tout ce qu'il est en train d'expliquer, il est en train de lire aux sahaba, c'est la connaissance qu'Allah lui a accordée par le biais de la révélation. Et Allah Azza wa Jalla, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. On parle de qui? Des frères de Yusuf alayhi salam qui se sont mis à comploter pour écarter le jeune Yusuf alayhi salam. Et en commentaire, les savants disent, voyez, la jalousie, ça peut pousser des membres d'une même famille à se déchirer et peut-être même s'entretuer. Cette jalousie, le prophète sallam a parlé de la jalousie disant que al-hasad, que la jalousie, ça détruit tes bonnes actions, comme le feu consomme le bois sec, comme le feu consume, pardon, le bois sec. C'est-à-dire la jalousie vend quelque chose de mauvais, de néfaste. Très souvent, on se focalise, on a raison. Enfin, on pense, on met en avant les péchés extérieurs, mais les péchés intérieurs sont aussi pervers, aussi dangereux. Quelqu'un qui pratique, qui prie, qui ainsi de suite, mais dans son cœur, il a la jalousie. Si quelqu'un a quelque chose, tout de suite, ça l'énerve, ça le fatigue, ça le frustre, ainsi de suite, ça prouve qu'il n'a pas confiance en Allah. Ça prouve qu'il n'accepte pas la décision d'Allah. Pourquoi lui, il a tel poste? Pourquoi lui, il réussit? Pourquoi moi, je n'ai pas ça? Même si tu te prosternes, même si tu as le Coran dans ton cœur et tout, il y a quelque chose qui ne va pas de ton cœur. Il y a islah, il y a nécessité de corriger ça. Et le prophète dit que la jalousie détruit les péchés, détruit les bonnes actions, comme le feu consume le bois. Et voyez comment est-ce que les frères de Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire par jalousie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite quand on a la jalousie dans notre cœur et qu'on est prêt à mettre en action nos plans pour éliminer la personne qui nous gêne, il n'y a pas de limite et on doit absolument combattre ce défaut. Voilà. Et il y a d'autres versets, Ibn Kathir, il va citer l'histoire de, on ne va pas tous les citer, l'histoire de Maryam alayhi salam, l'histoire également, et à chaque fois Allah Azza wa Jalla, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ, par exemple, إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُرُ مَرْيَمْ, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ, à propos de l'histoire de Moussa alayhi salam, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ, tu n'es pas présent près de la montagne de, comment dit-on en français, comment il traduit ça? Toi-même, je ne sais pas, il y a Khair, Inch'Allah. Donc, la célèbre montagne de Yusuf, de Moussa, alayhi salam. Donc, tout ce que le prophète me raconte avec précision, comment Moussa, alayhi salam, est parti rencontrer Allah, Azza wa Jal, à chaque fois, Allah, Azza wa Jal, rappelle que tu n'étais pas présent. Tu n'as pas vu. Tu ne faisais pas partie des gens qui étaient là. Mais ça, c'est la révélation d'Allah, Azza wa Jal. Également, quand on voit l'histoire de ce jeune, subhanallah, de cette personne parmi les Banu Israël qui s'est bagarré avec un copte, avec un copte d'Égypte, et quand Moussa al-Islam est intervenu, il a donné une claque, et il est décédé, il est mort, et ainsi de suite. Quand Moussa avait peur, il s'est réfugié. Mais quand on lit ça, on va le lire dans la Sourate al-Qasas bientôt, mais l'histoire est racontée avec tellement de détails, on peut suivre, on suit presque cette histoire comme une série, on voit comment c'est en train d'évoluer, quel est l'état d'esprit de Moussa alayhi salam, quelles sont ses craintes, et ensuite comment est-ce qu'Allah le rassure. Ensuite, on souhaiterait qu'il s'en sorte, qu'il trouve la solution, mais la situation se répète le lendemain ou quelques temps après, il se retrouve dans une même situation, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous ces détails, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal, c'est la preuve que ce Coran vient d'Allah. Parce que personne, je répète encore une fois, personne à cette époque ne connaissait l'histoire de Moïse, de Moussa, de Ibrahim, de Youssouf, de Maryam alayhi salam. Personne ne le connaissait comme cela a été révélé dans le Coran. Et que dire de la connaissance qu'Allah Azza wa Jal a accordée au Prophète sallam concernant la fin des temps? Quand ils se sont réunis lors du voyage nocturne, de la première étape. Comment s'appelait la première étape du voyage nocturne? Al-Isra. Et la deuxième étape, c'est Al-Mi'raj. La première étape, c'est vers la Masjid Al-Aqsa. Et là, il a rencontré les Anbiya, tous ses frères prophètes. Et là, le prophète a officié la prière. Et ils ont discuté des signes de la fin des temps, des grands signes. Et par rapport à ce sujet, Isa alayhi salam s'est distingué parce qu'il connaissait pas mal de choses qu'Allah lui avait révélées. Mais la connaissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dépassait celle de Moussa et de Isa et de n'importe quel autre prophète. Tout ce qu'Allah lui avait révélé, les autres prophètes ne le savaient pas. Ça montre que le prophète c'était a'lamun nas. C'était celui qui a eu le plus de connaissances de la part d'Allah. Une personne peut dire que moi je connais plein de choses, tu as appris auprès d'un être humain. Qui te dit que l'être humain lui-même il n'avait pas des manquements ou il a parfois l'enseignement était erroné? Mais là, le prophète, il a sa connaissance de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui est exceptionnel dans notre religion, c'est que le ilm vient d'Allah et accordé au prophète sallam. Et le prophète, ce ilm, c'est d'abord le Coran, et le Coran est protégé par Allah. Maintenant, ce qu'Allah inspire à notre prophète sallam pour qu'il explique à sa umma, ça s'appelle comment? Les hadiths. Ça peut être les hadiths traditionnels ou les hadiths qudsi. Et les hadiths qudsi, ils n'ont pas la protection d'Allah, comme le Coran. C'est bien qu'ils se différencient du Coran. Mais les hadiths sont prouvés par les chaînes de narration. Et il y a une étude, il y a une science qui s'appelle al-jarh ou al-ta'dil. Je pense qu'au moins une fois par an, on parle de ça dans les salat al-tarawih. Il y a des savants qui ont consacré leur vie à l'étude des biographies des narrateurs de hadith et qu'ils peuvent vous dire exactement à quelle époque ils ont vécu, à quel endroit, et est-ce qu'ils ont vraiment rencontré tel cheikh qui leur ont accordé tel riwayat, et ainsi de suite. Si nous voyons des livres, des recueils aussi précis que Bukhari et Muslim, où les chaînes de narration ont été étudiées par Imam Bukhari jusqu'à nous donner des hadiths qui sont authentiques, et pareil pour les kutub al-sita, et ainsi de suite, c'est que le ilm, la connaissance religieuse, pour cette umma, elle est spéciale, elle est spécifique, elle est protégée. Soit c'est le Coran, là il y a la garantie, mais 100% du début jusqu'à la fin, les hadiths où Allah nous a accordé une connaissance, une science que les autres peuples, ni les Yahoud, ni les Nasara, ni les autres communautés n'ont jamais eu, c'est la science des chaînes de narration. Ce qui nous permet que, lorsqu'on affirme, lorsqu'on parle d'un hadith, on peut dire exactement à quel moment le prophète alayhi salatu wassalam l'a prononcé. Très souvent, on peut même situer, c'était à Makkah ou Madina, tel événement, quel sahaba était présent, combien de sahaba ont rapporté le même hadith, et à combien de tabi'in, et à combien de tabi'in, on peut faire un regroupement des chaînes de narration, et ça fait que notre religion, elle a des bases extrêmement solides. On ne plaisante pas, on ne rigole pas avec la religion, tout est fondé. Pour ça qu'il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. On n'a pas le droit de raconter de la religion des choses qui ne sont pas fondées, parce que notre religion, elle se distingue par ses sources, qui sont sûres et certaines, qui sont protégées par Allah Azza wa Jal, ce qui fait que cette religion, c'est celle qui dure le plus de temps. Il n'y a pas une religion qui a duré autant de siècles et des milliers d'années, et elle va perdurer jusqu'au Qiyama. Entre autres, c'est parce qu'elle est protégée par Allah Azza wa Jal. Et voilà donc, à travers ce verset, nous voyons un exemple seulement de la connaissance qu'Allah avait accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en conclusion de ce verset, in huwa illa dhikrul lil alamin, et ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Donc ces versets avaient pour objectif de rassurer, on appelle ça en arabe tasliya, de rassurer et de conforter le prophète alayhi salatu wassalam dans sa mission, pour qu'il voit que tous les prophètes ont connu des difficultés, mais également c'était deuxième objectif de l'histoire des anbiya, des prophètes, c'était également une leçon pour ceux qui se rebellent contre lui, ceux qui n'acceptent pas, ceux qui l'ont déclaré la guerre, qu'ils voient à travers les versets qui étaient révélés, comment est-ce que le peuple de Houd a été détruit, comment est-ce que le peuple de Thamoud a été détruit, comment est-ce que le peuple, et ainsi de suite, comment est-ce que les autres communautés ont été châtiées quand ils ont désobéi au prophète. Attention, ne prenez pas le même chemin. Et ensuite, c'est une ibra, c'est une leçon également pour la Ummah, pour qu'ils voient comment est-ce que les autres communautés se sont comportées avec le prophète, et comment est-ce que les gens qui les ont écoutés, qui sont restés fermes dans la foi, et qui ont été patients face aux difficultés, à chaque fois, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, Allah envoyait toujours son aide, la délivrance, c'était pour les pieux. Même si nous connaissons des situations difficiles, où il est compliqué de rester ferme dans sa foi, où on est parfois éprouvé par les paroles des gens, ou par ce qui est écrit, ou par ce qui est véhiculé par la presse, on reste serein, parce qu'on est sur le droit chemin. On n'a pas besoin non plus d'aller faire tapage trop, on n'a pas besoin de religion ostentatoire non plus. On a une religion qu'on vit dans notre cœur à travers nos actes d'adoration, et on doit éprouver une tranquillité, une sakina, parce que nous savons que c'est la vérité. Et plus il y a des gens qui te tapent dessus, plus il y a des gens qui te critiquent, c'est une preuve qu'on est dans le vrai. C'est une preuve qu'on est dans le vrai, parce que ces cycles-là, les prophètes l'ont vécu, les sahaba l'ont vécu, jusqu'à atteindre la limite de la patience humaine. Hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu Mata Nasrullah, et là Allah Rabbul Izzah envoyait son annoncer que son aide était proche, Allah inna Nasrullah yaqrib, et c'est la sunna d'Allah d'éprouver les personnes qui sont sincères. Donc Ibn Kathir dit, c'est un rappel pour l'univers, ayyatadhakkaruna bihi wa yahtadun, ils vont se rappeler d'Allah par ces versets, ils trouveront la guidée en suivant ces histoires, et ils vont trouver l'ouverture, ils se protègent, ils trouvent la hidayah, la guidée dans ce dunya et dans le akhirah. Comme d'habitude, on conclut avec un autre verset, sans rentrer dans les détails, juste le verset et la traduction. لقد كان et ça c'est dans le même thème d'ailleurs. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah Azza wa Jal s'adresse aux gens intelligents. On avait parlé, c'est qui les gens intelligents? Par opposition à ce qui a été lu dans le Tarawih hier, c'est quand le verset. Ah, il y a des gens qui ont des yeux mais ils ne voient pas. Le verset ne me revient pas. Hein. Ça a été lu hier. Il y a des gens qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ou là, c'est pas oulaïka kalanam, c'est un autre verset. Bref, ça allait dans ce sens. Il y a des gens qui voient mais qui ne perçoivent pas la vérité. Ils entendent mais ils savent pas écouter la vérité. Alors que le croyant, il voit avec son iman. Donc ses yeux sont téléguidés par sa foi, ses oreilles, son cœur pense avec le iman et nous on voit la vérité. Et ce sont là les gens intelligents qui arrivent à réfléchir, à méditer et qui voient le haq. Donc laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ma kana hadithan yuftara, ce n'est point là un récit fabriqué. ولكن تصديق الذي بين يديه, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. وتفصيل كل شيء, un exposé détaillé, تفصيل, les détails, chaque point est expliqué de façon précise. Et vous voyez, on ne va pas entrer dans des détails justement. Quelle est l'histoire du prophète qui est le plus souvent cité dans le Coran? Avant que je complète la phrase, le frère a trouvé la réponse, mashallah, barakallahu fik, l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Et quand on lit l'histoire de Moussa alayhi salam de l'histoire de Tarawih, c'est les versets les plus délicats. Parce que comme l'histoire est répétée dans beaucoup de sourates, il faut faire attention de ne pas mélanger. Parfois, il y a un waouh qui change, un fa qui change, ou thumma qui change, ou quelques petites lettres, mais l'histoire, même si elle est répétée dans plusieurs chapitres, elle n'est pas énoncé de la même façon. Et ce qu'on retrouve dans le Baqara, qu'on retrouve dans d'autres versets, c'est pas la même chose. Il y a toujours une information qui complète. L'histoire, les faits, les différents passages du Sallallahu alayhi wa sallam se répètent, mais ce n'est pas une répétition, il n'y a pas de redondance. Et ça encore, c'est une preuve, et bien sûr, pas d'opposition. Contrairement au livre précédent, où entre les quatre versions, pour une même histoire, on a quatre versions différentes, parfois même, qui se contredisent. Alors que dans le Coran, c'est un exercice, subhanallah, ajib. On a l'histoire de Moussa qui est répétée dans beaucoup de sipara, beaucoup de juz, mais il n'y a aucune contradiction, et les histoires se complètent et s'enrichissent, et il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de répétition. Donc, tafsil ali kulli shay. Wa tafsil ali kulli shay, et donc, c'est au contraire la confirmation de ce qui était déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, wa huda, un guide, wa rahmatan, et une miséricorde, les qawmi yu'minun, pour des gens qui croient qu'Allah Azza wa Jal nous donne la foi complète, qui nous permet de profiter de chaque verset du Coran, et qu'Allah Azza wa Jal remplisse nos cœurs d'amour pour son livre, et qu'on devienne dépendant du Coran, et qu'on a envie de l'étudier, de comprendre, d'avancer, de lire les histoires des prophètes, et qu'on arrive à s'enrichir spirituellement de ces histoires, et que cela illumine notre vie, ça nous permet d'avancer vers Allah Azza wa Jal. C'est la deuxième Laylatul Jum'a du mois de Ramadan, demain c'est vendredi, l'action la plus importante c'est, quelles sont les actions essentielles du vendredi? Alors dans l'ordre chronologique, le bain, le ghusl, le yawmul jum'a, et de façon permanente, salatu ala nabi, comme on appelle ici le durud sharif, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peu importe la formule, tout en sachant que la meilleure des salatu ala nabi, c'est celle que le prophète nous a enseignée pour lier à la salat. Il y a deux joyeux des gens qui écrivent, hein, qui inventent, il n'y a pas de mal, hein. Ce sont des durud qu'ils inventent, qu'ils écrivent, parfois c'est très beau avec plein de choses, mais la meilleure des salutations sur le prophète, c'est celle que le prophète nous a enseignée pour lier à la prière. Parce que s'il y avait meilleur que ça, il nous l'aurait enseigné. S'il nous a donné Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir. S'il y avait meilleur que cette formulation, il nous aurait donné. Donc ça c'est les meilleurs. Donc le bain du Yawm al-Jum'a, la salat ala al-Nabi, qu'est-ce qu'il y a encore comme action importante? Venir tôt, très tôt, dans la mesure du possible, le plus tôt possible pour la salat al-Jum'a. Après, Allah connaît notre intention. Imaginez que j'aurais tellement aimé être là depuis 10 heures, mais je travaille. Je sors de mon bureau à 12h15 et tout juste si j'ai le temps de venir prier al-Jum'a. Si ton intention c'était que si je pouvais, je serais là depuis 9h ou 10h, Allah t'accorde la récompense. C'est la karam, la générosité d'Allah Azza wa Jal. Il y a des versets qu'on avait lus également, ça concerne les gens de Médine. Ils auraient aimé être avec les musulmans dans certaines campagnes, mais Ils ne pouvaient pas. Et chaque étape que les croyants vivaient dans ces campagnes-là, dans ces difficultés, ben, ils obtenaient les récompenses à Madina parce que le niya était d'être avec les croyants, mais ils n'ont pas pu les joindre. Donc, essayez de venir tôt pour la salat de Jumu'ah et d'être attentif lors du khutbah, d'écouter l'imam. Parmi les actions importantes de l'Yom al-Jumu'ah, la lecture de la surat Al-Kahf. On ne peut pas, il y a des versets, il y a des ayats du Coran qu'on ne peut pas manquer. La surat Al-Kahf le vendredi, ça doit faire partie de notre quotidien. Et idéalement le mémoriser. À force de lire, si on le mémorise, ça nous permet de ne pas être dépendant, entre guillemets, du Coran. On peut lire des embouteillages et tout. Aujourd'hui, il y avait, mashallah, un bel embouteillage. On aurait pu lire 4 ou 5 juz. Donc, la surat Kahf est parmi ces versets, ces surat à lire, qu'on ne doit pas manquer le soir avant de dormir. Tabarakalladhi. Al-Mulk, ça c'est, je ne dis pas c'est obligatoire, mais c'est essentiel pour un musulman de lire Tabarakalladhi avant de s'endormir. Donc, voilà donc les quelques actions importantes. Et l'autre point important, c'est les doigts. Il y a deux moments importants pour faire doua le vendredi. Premièrement, et ça c'est peut-être pas connu de beaucoup de gens, le doua entre les deux khutbah. Ça c'est très important. Quand l'imam fait sa prêche, lorsqu'il s'assoit, ça dure combien de temps? Un peu 5-6 secondes. Et le doua, après il y a divergence d'opinion entre les madahib. Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut faire à voix audible ou alors de le cœur? Peu importe. Chacun suit sa façon, son école de jurisprudence. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser passer cette occasion. Si on fait dans le cœur, on fait dans le cœur. Quand l'imam s'assoit, faites les doigts les plus importants. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc allez à l'essentiel. Dites tout de suite que ça a besoin. Dites tout, d'accord? Et là, il faut vraiment, avec conviction, que c'est un moment clé d'acceptation des doigts. Et également, quelques instants avant la prière de Maghrib, c'est très important également, dans le Maghrib, de demander les doigts, qu'Allah nous accepte, nous permettre de vivre un deuxième Jumu'ah avec la foi et avec dévotion et concentration. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zakum khair.